son d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue. Se moquer des frouzes, des Français en clair, est devenu un véritable sport national pour les Suisses. Il faut dire que la Confédération helvétique compte aujourd'hui un quart d'étrangers, dont 170 000 Français, sans compter tous ceux qui traversent tous les jours la frontière, attirés par des salaires plus élevés. Ce qui explique que cet été, un hebdomadaire très sérieux de Suisse romande titrait « Au secours, mon patron est français ». Alors, provocation, humour noir ou agacement, un peu de tout dans un pays où la discrimination est peu réprimée et où la cohabitation entre les deux grands voisins français et allemands n'est pas toujours facile. C'est le reportage de Virginie Langeroc.
Au début, je pensais que c'était le sens de l'humour et juste, il voulait faire des petites blagues. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était sérieux quand il disait « sale frouze » et tout ça, qu'en fait, « sale frouze », bah, ça veut dire « sale français hein, », je sais pas, dans leur langage.
Thibault Leroy a 16 ans et il ne s'attendait pas à ça en débarquant au lycée à Lausanne voilà 2 ans, dans un pays où un quart de la population est étrangère et où l'on compte 300 000 frontaliers. La neutralité et la bienveillance helvétique ne sont pas toujours au rendez-vous, à l'école comme au travail.
Je me suis rendu compte par plusieurs témoignages de frontaliers que eux aussi ils étaient méprisés, qu'ils n'étaient pas les bienvenus, qu'il y avait beaucoup de termes xénophobes à l'encontre des Français et... Donc je m'attendais vraiment pas du tout à ça et je me suis mis tout de suite sur la défensive après, comme eux en fait.
Dans l'entreprise, au quotidien, ce seront des non-dits, des petites incivilités, des refus de promotion, des difficultés latentes dont bien peu osent faire part.
C'est des mini-agressions qui se manifestent en fait dans les interactions de tous les jours entre collègues ou avec le supérieur.
C'est surtout là où il y a des cadres étrangers et des frontaliers, hôpitaux, restaurants par exemple, que cela peut poser problème. Franziska Krings est professeure et chercheure à l'Université de Lausanne. Elle est elle-même venue d'Allemagne et elle a mené une étude sur les préjugés dont font l'objet les étrangers en Suisse et la discrimination dans le travail.
C'est le fait d'être ignoré, de ne pas être inclus ou d'avoir été traité. C'est juste le ton en fait, comment on s'adresse à quelqu'un. C'est des comportements assez subtils. Mais les Français et les Allemands, dans notre étude, rapportaient le plus, en fait, avoir vécu le plus de ce genre de traitement au travail, beaucoup plus que les Portugais, les Italiens, les Kosovars, on avait en fait toutes les nationalités dans notre échantillon.
Difficile de recueillir des témoignages sur ces hostilités voilées. Les étrangers n'osent pas se plaindre, craignant de perdre leur place. Mais pourquoi ces critiques et pourquoi sont-elles dirigées vers les voisins allemands et français? Car c'est contre eux que la rivalité est la plus forte. Les études menées par Franziska Krings et son équipe l'ont prouvé. On se ressemble, on parle la même langue, on partage les mêmes compétences et on se critique d'autant plus fortement pour se différencier. C'est une explication bien connue en psychologie sociale, le besoin de se distinguer. Au secours, mon patron est français, la une volontairement provocante du magazine, montre qu'en Suisse, on peut se moquer ouvertement d'un groupe. De toute façon, les lois antidiscriminatoires sont faibles ou peu appliquées. Franziska Krings.
Se moquer des Allemands et des Français, c'est... Des fois, j'ai l'impression, en Suisse, c'est un des préjugés. On a encore le droit de les exprimer assez ouvertement. Les blagues, tout ça, on connaît tout ça. On ne peut plus faire les mêmes blagues sur les femmes, par exemple, aujourd'hui, parce que la norme a vraiment changé. Ça m'a aussi choquée, parce que je pense aussi en Allemagne, ça ne serait pas possible. En France, ça ne serait pas possible. Mais c'est la Suisse, en termes de loi antidiscriminatoire, est faible, hein. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par les instances internationales et il n'y a que cet article 8 dans la Constitution qui interdit la discrimination, mais c'est une phrase qui est rarement appliquée selon mes connaissances aussi. Et si vous pensez ce qui se passe dans les pays qui sont membres de l'Union européenne, où on a maintenant une large gamme des lois antidiscriminatoires spécifiques aussi sur le lieu de travail, c'est la Suisse où c'est encore possible. En termes de législation, il y a du rattrapage. Je pense que ça va arriver, mais c'est à la vitesse des Suisses.
Autre raison à cette stigmatisation, les Français sont plus nombreux qu'avant à occuper des postes à responsabilité. Et ils amènent avec eux un style de management pas forcément bien vu.
On connaît aussi le stéréotype ou le style allemand et français qui est peut-être plus direct que le style suisse. Moi-même, je suis allemande, alors je sais aussi de quoi je parle. On a peut-être un style des fois un peu plus direct dans la communication et ça peut bien évidemment aussi engendrer ce genre de réaction.
Des agacements, des petites phrases qui font mal, souvent un vrai choc culturel qu'on pourrait réduire, assure Franziska Krings, si bien plus d'entreprises de cadres étrangers se formaient à la gestion de la diversité.
Depuis une vingtaine d'années seulement, la Finlande s'est ouverte aux immigrés. Les étrangers ou Finlandais d'origine étrangère sont donc devenus visibles dans les rues des grandes villes. Ils représentent aujourd'hui 6% de la population. Les Finlandais s'habituent plus ou moins vite à ce changement dans leur société. Dans certains métiers, en tout cas, l'évolution est flagrante. Ainsi, les taxis. Pauline Curtet est montée dans la voiture d'un chauffeur d'origine congolaise qui lui a confié son ressenti.
D'origine congolaise, Yoka Muyo vit en Finlande depuis plus de 25 ans. Il parle le finnois sans problème et connaît les rues de Tampere, au sud de la Finlande, comme sa poche. Il faut dire que depuis 6 ans, il les sillonne pendant de longues heures chaque jour. Il est chauffeur de taxi. La plupart du temps, ses courses se passent bien, mais il y a eu de mauvaises expériences.
Il y a des fois, je me rappelle la première fois, c'était j'étais dans une station et puis il y avait un couple qui était là. Alors, quand ils ont vu que j'étais un black, donc ils ont dit que non, ils ne prennent pas les taxis. Alors, c'était un peu bizarre parce que dans tous ces côtés-là, j'étais le seul. Donc, voilà, qui était libre. Alors, ils ont essayé d'attendre et après ça, ils attendaient leur train ou quoi là. Donc, ils ont commencé à se chamailler entre eux et bon, moi, j'étais là. Mais bon, après ça, la dame est venue me demander pardon si je peux les amener. J'ai dit non, je ne peux pas. Donc, c'était ma décision. Bon, je ne sais pas s'ils ont raté leur train ou quoi.
Yoka Muyo assure qu'il pourrait écrire un livre sur toutes les anecdotes accumulées dans sa carrière de taxi. Toutes ne concernent pas des actes racistes, mais les cas de discrimination agacent particulièrement le chauffeur.
Ben, des fois, il y a des gens, bon, tu peux savoir que non, il est raciste ou bien quoi, mais bon, il est là, il est calme, mais bon, moi j'ai fait mon boulot, hein. Je l'amène où il veut, et puis bon, bye bye. Donc, des fois, les trucs comme ça vient, bon. Et puis souvent ça peut m'énerver, mais je ne peux pas vraiment le montrer ça. Parce que si on est un peu monté, c'est pas vraiment bien pour tous ces boulots-là. Donc conduire tout ça là, donc il y a des feux, il y a des gens qui circulent, tout ça là, donc c'est pas vraiment prudent.
Les statistiques sont quasi inexistantes, mais la question de ces agressions racistes confinées dans l'habitacle du taxi revient régulièrement dans l'actualité. Fin 2014, par exemple, les médias finlandais avaient largement relayé les coups portés sur un chauffeur de taxi d'origine somalienne à Lieksa, une petite ville située à l'est de la Finlande. Quelques mois plus tôt, le quotidien Helsingin Sanomat avait publié une longue enquête sur les chauffeurs immigrés d'Helsinki qui ont parfois bien du mal à attirer les clients. Karim Metwali est d'origine égyptienne. Il vit en Finlande depuis 10 ans et travaille comme chauffeur de taxi à Tampere depuis un an. Il essaie de relativiser la situation.
Je ne pense pas avoir été confronté à des cas très sérieux de racisme. Une fois, cependant, un client était ivre, il était agressif et me demandait ce que je faisais là, en Finlande, pourquoi j'étais venu. Mais ce n'était pas très grave. Dans ces cas-là, j'écoute le client, je le laisse finir, et après, je vois ce que je peux faire. J'essaie de détendre la situation et de rester positif.
Environ 10% des chauffeurs de taxi finlandais seraient d'origine immigrée. Parmi eux, des Russes et des Estoniens, dont la couleur de peau les met à l'abri de toute discrimination au faciès. Pour les autres, comme Karim ou Yoka, la situation est plus compliquée. Mais d'après leur patron, Rauno Moisander, les mentalités ont déjà beaucoup évolué.
20 years ago, we had none. Il y a 20 ans, on n'avait pas un seul chauffeur de taxi étranger à Tampere, pas un seul. Aujourd'hui, il y a même des immigrés qui sont devenus propriétaires de leur taxi. Donc, les choses ont beaucoup changé. Il y a 20 ans, il n'était pas courant de voir des étrangers ici. Mais maintenant, si on va au restaurant, dans des commerces, on en voit tous les jours. Petit à petit, l'état d'esprit des Finlandais change.
Dans la queue pour le taxi à l'aéroport d'Helsinki, les clients finlandais montent indifféremment dans n'importe quel taxi. Le sujet fait même rire Valtteri Toivonen, un trentenaire finlandais de retour de vacances.
Je ne vois pas trop quelle différence ça fait de monter avec un chauffeur de couleur. Mais il est vrai que certains Finlandais sont encore un peu méfiants. Les personnes âgées, par exemple. Ma grand-mère, une fois, a dû prendre un taxi conduit par un Turc et elle n'était pas très contente.
Parce que l'immigration est récente, la question du racisme peut aussi être une question de génération en Finlande. Du côté de la Fédération des chauffeurs de taxi, qui défend les intérêts de la corporation partout dans le pays, on est un peu démuni face au risque de débordement. Tuuli Vilgren est l'avocate de l'organisation.
On sait que certains clients refusent d'entrer dans un taxi avec un chauffeur de couleur. Et le week-end, quand les gens ont bu, il y a des cas d'insultes et d'abus. Mais nous, en tant qu'organisation, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je pense que c'est plus une question d'atmosphère générale à l'égard des gens de couleur. C'est ce qu'il faut changer.
Et signe que le mot intégration chez les taxis s'accompagne d'une très haute exigence. Pour réussir le concours de chauffeur, il faut parler couramment le finnois ou le suédois, l'autre langue officielle du pays.
Sortir.
Oslo, Bruges, Cordoue, voilà les derniers nés dans la grande famille des guides touristiques Usit. Au total, une quarantaine de villes européennes sont représentées, pas toujours les grandes capitales attendues. L'originalité de ces guides, c'est qu'ils sont entièrement gratuits, écrits par des jeunes originaires de la ville et souvent avec un budget rikiki. Explication avec Cécile Debarge.
Visiter une ville grâce au conseil d'un ami, c'est souvent la meilleure occasion de sortir des sentiers battus et des guides touristiques. Mais quand on ne connaît personne, comment fait-on? Pour une quarantaine de villes européennes, la réponse s'appelle Usit, une carte dont la devise est « Fais comme un habitant de la ville ». Une fois déplié le petit carré de 15 cm sur 15, ce qui devient un grand plan étruffé d'annotations et de bons plans directement conseillés par les habitants. Explication avec l'un des créateurs de la carte de Palerme, Giuseppe Arici.
La plupart des lieux choisis l'ont été sur la base d'un petit sondage qu'on a fait circuler parmi le plus de palermites impossible. On a fait un document partagé sur Google et avec une série de questions, on a demandé les conseils des uns et des autres. Ensuite, bien sûr, on a ajouté à la carte que les endroits que l'on connaissait et appréciait parce que ce sont avant tout des conseils sincères que l'on donne.
Giuseppe n'a rien d'un guide touristique professionnel. Ce palermitain diplômé en architecture s'est lancé dans l'aventure avec trois amis l'année dernière. Une illustratrice et un coordinateur sont ensuite venus leur prêter main forte. Moyenne d'âge, entre 28 et 35 ans, seule compétence requise, beaucoup d'enthousiasme et une excellente connaissance de la ville. Ils contactent d'abord le siège à Bruxelles qui les aide à évaluer l'intérêt d'un plan Usit pour la ville. Ensuite, libre à eux de conseiller ce que bon leur semble ou presque, raconte Giuseppe Arici.
On reçoit un petit vademecum avec la brochure fournie par Bruxelles. Il y a différents critères, parmi lesquels celui d'être un endroit vraiment unique, une particularité qui n'existe pas ailleurs, ou alors un lieu ultra typique qu'on ne peut connaître qu'en habitant à Palerme.
Concrètement, ça donne des informations historiques sur la cathédrale ou sur les places emblématiques de Palerme, mais aussi des conseils sur le nombre de bises qu'on donne pour se saluer, sur la manière de ne pas se faire arnaquer au marché ou bien sur un restaurant décoré aux couleurs du club de foot de la ville. Voici aussi le genre de lieu insolite que peut découvrir le touriste.
Une petite place qui a été totalement transformée par un collectif de citoyens et qui, d'une ancienne décharge, est devenue un lieu où se trouve la fameuse Famose, une dame qui ne vend que sa production dans une toute petite boutique et qui prend soin tous les jours de la place en arrosant toutes les plantes, par exemple.
De Turin à Bologne, Bari ou Padoue en Italie, chaque carte réserve de petits clins d'œil qui rendent à chaque ville une échelle humaine. Et même si elle s'adresse initialement à un public de jeunes voyageurs de 18 à 30 ans, chacun peut y trouver des adresses pour voyager différemment. Chaque année, le réseau s'agrandit en Italie, mais aussi dans le reste de l'Europe, et le travail est loin d'être terminé une fois la carte publiée. Il y a ensuite la mise à jour et parfois la création de structures en dur pour dispenser les conseils de la carte, explique Giuseppe Arricci.
Sur la scia di alcuni infodesk esistenti in Europa.
Sur le modèle d'autres points info tourisme qui existent à Bruxelles, à Oslo et dans d'autres villes européennes, on vient juste de lancer un point info à Palerme pour les touristes. On n'est pas en concurrence avec les points touristiques qui existent déjà. Les touristes nous demandent plutôt l'agenda culturel de la semaine, ce qui se passe en ville, des anecdotes, des recommandations qui ne soient pas une visite de musée, mais des choses un peu plus spéciales.
Anche aneddoti, cose da vedere che non siano il museo, ma che sia qualcosa di più particolare.
Si le petit groupe de palermitains ne manque pas d'idées, ils doivent pourtant faire face à une grosse difficulté, récolter les fonds nécessaires à la réédition, la mise à jour et à l'impression des cartes distribuées gratuitement. En 2014, la mairie de Palerme leur avait accordé une subvention de 15 000 euros, mais les 50 000 exemplaires ont presque tous été distribués et ils n'ont pas encore trouvé comment financer les prochains.
De l'amour en couleur, vert, jaune ou bleu, les préservatifs se partent donc de ces couleurs pour la bonne cause. L'invention nous vient de Grande-Bretagne. Des étudiants ont mis au point une capote qui change de couleur selon la maladie vénérienne détectée, en cas de MST bien sûr, et les médecins applaudissent. Marie Billon nous en dit plus.
Au début, ils avaient peur d'en parler à leur professeur, ils craignaient d'être collés en retenue et ils sont finalement sortis avec un prix, le Tintech Award, qui récompense les jeunes de 11 à 16 ans qui conçoivent des inventions utiles au quotidien. C'est en surfant sur le net qu'ils ont eu l'idée, ils ont trouvé une page nommée « Les 20 choses qu'il faut absolument inventer ». Dans la liste, les préservatifs qui changent de couleur. Alors les jeunes garçons ont voulu lier l'utile à l'esthétique et se sont dit « Pourquoi ne pas inventer un préservatif qui changerait de couleur s'il entre en contact avec des maladies sexuellement transmissibles ?» L'idée n'est pas folle puisque les tests HIV utilisent déjà le changement de couleur pour signifier la présence du virus. Ils ont donc parlé à leur professeur de biologie qui les a aidés à développer un protocole. Il faudrait créer un préservatif recouvert d'anticorps qui, lorsqu'il entre en contact avec les antigènes des fluides sexuels, change de couleur. Les anticorps seraient présents sur les parois intérieures et extérieures du préservatif pour pouvoir tester hommes et femmes, même si pour l'instant aucun mécanisme n'est prévu pour signifier lequel des partenaires est infecté. Les jeunes garçons ont par contre prévu une palette de couleurs, vert pour détecter la présence de la chlamydia, violet pour les verrues génitales, bleu pour la syphilis ou encore jaune pour l'herpès. L'idée a plu au jury du Tintech et à une marque de préservatifs qui veut demander à des scientifiques de réaliser le projet. Le concept en enthousiasme certains, mais en laisse d'autres dubitatifs. Deux problèmes se posent. D'abord, les anticorps présents sur les parois de la capote pourraient irriter certaines personnes. Ensuite, l'idée de soumettre son partenaire à un test de maladie vénérienne en pleine action est très peu romantique, voire même rédhibitoire. Mais les jeunes gens ont une réponse toute trouvée à ce dernier problème. Ce préservatif n'est pas tant pour les couples que pour que chacun puisse se tester chez soi et éviter la gêne qu'on peut ressentir en allant voir un médecin pour suspicion de MST.
Et Accent d'Europe, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, à la réalisation Ludivine Amado, qui sera également à mes côtés. Ne manquez pas, hein, ce vendredi, le reportage d'Anne Andlauer sur la fin du cessez-le-feu entre gouvernement turc et kurde du PKK. Désespérés, les jeunes kurdes se radicalisent. Et puis, souvenez-vous de Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui promettait de se baigner dans la Seine dans les années 90. La promesse est évidemment restée de l'ordre du fantasme. Alors avec Marie Bignon, nous traversons la Manche et nous verrons si à Londres on peut piquer une tête aujourd'hui dans la Tamise. En attendant de vous retrouver, rendez-vous sur Facebook et sur RFI.fr et puis surtout ne zappez pas dans un instant les infos.
Pour nous écrire, accent au pluriel.europe@rfi.fr.